Ouais, donc bienvenue dans cette soirée sur la résurrection. On est entré dans le temps du carême, ça tombe bien, on se prépare à Pâques à célébrer la résurrection de Jésus. Or, un sondage de 2009, je l'accorde, ça commence à dater, mais quand même, publié dans le journal La Croix, montrait que seuls 10% de ceux qui se déclaraient chrétiens croyaient en la résurrection. Ce qui, pour une religion basée sur la ressuscité, fait quand même pas beaucoup, vous l'accorderez. Voilà, sachant que parmi l'ensemble des chrétiens, 7% d'entre eux croyaient en la réincarnation. Voilà, donc grand marché, voilà. Chacun croit ce qu'il veut comme il veut, c'est très, très intéressant. Mais du coup, le but de ce soir, c'est de consacrer notre rencontre à ce sujet, le creuser, et de voir ce que c'est que la résurrection, aussi précisément que possible. Alors, pour commencer, une brève histoire, très très brève, de la résurrection, chez le peuple hébreu. C'est une croyance qui n'émerge pas tout de suite dans le peuple hébreu. Pendant plusieurs siècles, les Hébreux ne conçoivent pas de vie après la mort. Les morts vont ce qu'on appelle au Sheol, aux enfers, qui est un lieu un peu bizarre en fait, où c'est un état de passivité totale loin de Dieu. C'est pas un anéantissement, c'est pas une vie qui ressemblerait à la vie terrestre. Voilà, c'est un état un peu hybride où les gens sont dans une espèce de sommeil un peu indéfinissable qui dure pour toujours. Et c'est pourquoi, du coup, la vie sur Terre revêt une importance capitale. On n'a qu'une vie, comme on dit, il n'y a que la vie sur Terre. La Terre, c'est le seul lieu où on peut vivre sous le regard de Dieu, avec lui. Et donc la Terre promise, vous voyez, ce n'est pas simplement pour un juif un bout de terrain que le Seigneur lui donne pour faire pousser des carottes. C'est le lieu, le seul lieu de la relation avec Dieu. C'est extrêmement important pour eux. De même, avoir des enfants, c'est une façon de prolonger sa vie et de persister sous le regard de Dieu, entretenir cette relation avec Dieu. Mais, ceci étant dit, petit à petit, l'idée de la résurrection quand même fait son œuvre. Elle émerge. D'abord, on la conçoit dans un premier temps comme une simple prolongation de notre vie sur Terre, un petit cadeau bonus de Dieu. Et on voit d'ailleurs des prophètes opérer des résurrections. Voilà, des gens qui gagnent 6 semaines, 1 an, 10 ans, je ne sais pas quoi, de vie sur Terre, à la suite d'une maladie, ils ont prié, ils sont morts, enfin, ils sont morts, on a prié pour eux, ils reviennent sur Terre. Petit bonus, plus 10%, que sais-je. Mais il faut attendre les derniers siècles avant Jésus pour que, sous l'influence de la philosophie grecque, on commence à envisager une résurrection qui soit une véritable seconde vie après la mort. Qui ne soit pas un retour sur Terre dans la vie antécédente, mais qui soit un nouveau type de vie. On trouve la trace pour la première fois de cela dans le deuxième livre des Maccabées. M-A-C-A-B-E-E-S, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre un peu caché à la fin de l'Ancien Testament. Deuxième livre des Maccabées. Ce livre est écrit entre moins 160 et moins 100, à peu près. Vous voyez, donc c'est très tard, si je peux dire, dans la révélation de l'Ancien Testament. Et tout ça pour vous dire quoi? Que l'idée de la résurrection, c'est pas quelque chose d'évident, en fait. Et donc c'est pas étonnant que ce soit difficile, et que nos amis qui ont répondu au sondage, en fait, eux-mêmes, ne sont peut-être pas complètement au clair avec ce que c'est que cette idée de résurrection. Alors, ce débat, il se prolonge encore au temps de Jésus. Et on va voir ce que ça implique, en fait, pour la résurrection de Jésus. Même si la plupart des gens, à ce moment-là, pensent qu'il y a une vie après la mort, une véritable résurrection, eh bien, tous ne sont pas encore complètement d'accord. Et on trouve dans les évangiles quelques débats autour de ce sujet, entre Jésus et un des courants théologiques de son époque. Vous avez peut-être en tête ce fameux texte où il y a ce débat autour de cette femme qui épouse 7 maris consécutivement et on dit de qui elle sera la femme à la fin des temps. Mais cependant, quel que soit le courant, même si on croit à la résurrection, on n'y croit pas pour maintenant. Comme on le voit par exemple dans les dialogues de Jésus avec Marthe et Marie dans l'évangile de Jean, au moment de la mort de Lazare, on pense que la résurrection aura lieu, mais c'est pour après. C'est plus loin. Lorsque le monde sera terminé, à la fin du monde. Mais un événement unique va venir un peu modifier cette compréhension. Cet événement unique, on le perçoit au matin de Pâques. C'est le point de départ de notre foi. Le point de départ de notre foi dans la résurrection, c'est le témoignage de quelques femmes, un dimanche matin, en fait, venues au tombeau de Jésus, ce matin de Pâques. Et la grande phrase qui est répétée, si vous reprenez les évangiles juste après la résurrection, c'est « Il n'est pas ici. » Il n'est pas ici. C'est ça la phrase qui est relayée au matin de Pâques. « Il n'est pas ici. » C'est intéressant parce que, en fait, notre foi à la résurrection, elle repose sur quoi? sur une absence. C'est pas d'abord, vous voyez, quelque chose de, vous allez dire, positif. C'est d'abord, il n'est pas ici. Il n'est pas là. Il est arrivé quelque chose à Jésus. Celui dont le corps devrait être devant nos yeux, mort, n'est pas là. Quelque chose l'a fait échapper à notre monde, au temps et à l'espace. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Question suivante, c'est normal. À vrai dire, je vous donne tout ce que j'ai comme élément, j'en sais rien. Voilà. On n'en sait pas exactement ce qui s'est passé parce que personne n'était là dans la nuit de Pâques pour prendre des notes, une vidéo éventuellement, ça aurait été chouette, pour faire le récit. Donc vous voyez que, comme on l'a dit la dernière fois, en fait, la résurrection, c'est vrai que c'est un événement qui a eu lieu au cours de l'histoire, mais il échappe à l'histoire qu'on raconte, à notre histoire, il échappe en fait à l'histoire. On ne peut pas le raconter. Même si, il y a un moment donné de l'histoire où il y avait le corps dans le tombeau, et il y a un moment d'après où il n'était plus là. Alors, donc, on ne sait pas ce qui arrive exactement le matin de la résurrection, au moment de la résurrection, mais par contre, on sait que les disciples, eux, ils font une véritable expérience avec le ressuscité. Et ils insistent lourdement sur la réalité de ce ressuscité. Ce ressuscité qui leur apparaît, c'est Jésus, il est vivant et il est corporel. Luc met même en scène Jésus ressuscité mangeant du poisson. Vous voyez, pour bien signifier que ce qui est ressuscité, c'est tangible. Ce n'est pas un ectoplasme ou que sais-je qui leur apparaît. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de lui, de ce ressuscité? Je vais pardonner bien mes parties, mais je suis dans le grand B si vous avez la même orientation que moi. Que signifie cette expérience? Que dire du ressuscité? On peut rassembler quelques éléments d'abord. Le premier, c'est que les disciples voient un homme bien concret, comme je vous l'ai dit avec le clou du poisson là, marqué par son histoire. Ils voient quelqu'un qui est marqué par les clous qui l'ont traversé, qui l'ont transpercé lorsqu'il était vivant, lorsqu'ils l'ont connu vivant. Le deuxième élément, c'est que Jésus est capable d'échapper aux contraintes du temps et de l'espace. Il peut apparaître dans une pièce qui est verrouillée, il peut apparaître à plusieurs lieux en même temps. Voilà. Et le troisième élément, c'est que, en fait, malgré ses propriétés étonnantes de son corps, eh bien, c'est qu'on est capable de le reconnaître. Et de le reconnaître comme ce Jésus qu'on avait côtoyé trois jours auparavant et quelques années auparavant dans Jérusalem ou sur les bords du lac de Galilée. Voilà les trois éléments qu'on peut rassembler là-dessus. Le premier, en fait, il est important à mon sens parce qu'il montre que la résurrection, c'est pas une remise à zéro. Vous savez, comme quand l'ordinateur a planté, on l'éteint, on le rallume et ça repart à zéro. Voilà. La résurrection, l'homme qui ressuscite, il est marqué par son histoire. Jésus, même ressuscité, porte la marque des clous, il porte la marque de ce qu'il a fait mourir. Et donc la résurrection, vous voyez, c'est un événement qui assume notre passé. La résurrection, elle prend toute notre histoire telle qu'elle a été. Et c'est ça qu'elle va venir ressusciter, renouveler. Ce que nous aurons vécu sur terre pourra se voir au ciel. Mais à condition de bien s'entendre ce que ça veut dire. Les plaies de Jésus, ressuscité, elles ne saignent plus. Ce n'est plus des plaies qui conduisent à la mort, vous voyez. Elles ne le font plus souffrir. Elles ne manifestent plus la puissance du mal capable de crucifier le juste. Elles sont, ces plaies, simplement le vestige de son histoire. Les traces de son histoire. Pour moi, c'est vraiment un point important parce qu'il signifie que lorsque Dieu nous donne sa vie, cette vie, elle ne vient pas écraser notre vie, remettre à zéro, vous voyez, les choses. Elle vient respecter notre vie, la vie que Dieu nous donne. Dieu assume ce que nous sommes, il travaille toujours à partir de ce que nous sommes. La vie que nous vivons donc est sérieuse, et même Dieu ne la balaye pas d'un revers de main. C'est quand même fort quand même. Notre vie, elle a ce poids-là, que Dieu la respecte, au point qu'il ne va pas la balayer d'un revers de main, serait-ce pour nous donner la vie éternelle. Et donc, la résurrection, c'est pas un événement qui nous dissout dans un grand tout, ou qui nous transformerait en pur esprit angélique. C'est parfois pour dans les moments extrêmement douloureux, quand on perd un tout petit enfant, on dit c'est un ange maintenant. En fait, c'est pas vrai. C'est un homme, c'est un humain. Et il va pas devenir un esprit pur comme les anges le sont. Par contre, voilà, effectivement, on voit ce qu'il y a derrière, c'est de dire qu'il y a une forme de pureté qui est assumée par Dieu, qui est gardée par Dieu. Mais voilà, si on voulait être. Si on osait être théologien à ce moment-là, ce qui serait un peu abrupt, on pourrait dire que c'est pas juste. La résurrection, c'est donc notre résurrection intégrale, intégralement. C'est notre vie telle qu'elle a été, qui entre dans un nouvel élan. Dieu n'anéantit jamais, mais il opère toujours en recréant, donc en assumant le passé, comme je commence à l'avoir déjà pas mal dit. Ceci étant dit, le deuxième élément, le fait que Jésus est capable d'échapper aux contraintes du temps et de l'espace, nous rappelle que la résurrection n'est pas une simple prolongation de notre vie. Le paradis, c'est pas juste une vie qui ressemble à la vie sur Terre, ou une vie sur Terre ou un petit peu mieux. La résurrection entraîne pour nous un nouveau rapport au monde et à Dieu, au temps et à l'espace. Si Jésus apparaît bien concrètement à ses disciples, il peut aussi disparaître soudainement, sans qu'ils s'en rendent trop compte, en fait. On pense à Emmaüs, il rompt le pain et il disparaît à leurs yeux. Son corps n'est plus lié comme le nôtre aux contraintes du temps et de l'espace. Et même, d'ailleurs, ses disciples ont toujours du mal à le reconnaître. C'est vrai qu'il est reconnaissable, mais il met toujours un peu de temps pour capter que c'était lui. Alors, ça veut bien dire que si c'était si évident, s'il était ressuscité exactement comme avant, ça se verrait, j'imagine. Et donc, il y a quelque chose de vraiment transformé en Jésus ressuscité par rapport au Jésus qu'ils avaient connu. La résurrection, c'est donc un événement qui nous transforme en profondeur. Elle est une vie qu'on ne peut pas imaginer par avance, en fait. Pour imager cela, on peut dire que si vous prenez une chenille, par exemple, elle pourrait se projeter aussi fort qu'elle veut dans la vie de papillon, ça lui reste difficile à appréhender, vous voyez. Je vais dire quasiment impossible à appréhender. Ce que ça signifie de sentir la légèreté du vol, ce que c'est que cette vie de papillon qui pourtant l'attend, suite à une transformation profonde. Et de même, nous, on est fait pour la résurrection, c'est vrai, mais cette vie est assez hors de notre capacité d'imagination, du fait qu'elle nous place dans un état tout à fait nouveau. Donc, troisième élément, pour conclure sur ce que ça nous dit de la résurrection, cette résurrection de Jésus, c'est que... Le troisième élément, c'est que... qui était, je vous rappelle, qu'on est capable de reconnaître Jésus, il est important parce que c'est la garantie que le ressuscité qu'on a devant nous, qu'on a peut-être un peu de mal à reconnaître, c'est bien le même que le Jésus qui a marché sur Terre. C'est bien même que celui qui est mort pour nous. Il y a une continuité entre les deux. Et c'est important parce que sinon, en fait, la résurrection, c'est une supercherie. En fait, si c'est deux entités qu'on voit une avant, une après, une qui est vraiment morte et l'autre qui a une vie qu'on ne connaît pas, en fait, ça n'a pas de sens. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que les apôtres et les premiers disciples avec eux qui peuvent garantir que c'est la même personne. Parce que c'est eux qui l'ont vu avant, après. Et c'est un point crucial pour nous parce que, pour deux raisons. C'est crucial parce que ça atteste que la résurrection nous concerne bien. Notre histoire, notre vie est faite pour recevoir cette vie de Dieu. Ce Jésus qui a marché sur terre, qui était vraiment homme, il a pu recevoir cette vie de Dieu, donc nous aussi, on pourra recevoir cette vie de Dieu. Et d'autre part, deuxième chose, c'est que cette résurrection, c'est l'histoire d'une confiance assez folle, en fait. Le récit de cette résurrection, il repose sur les hommes pécheurs, que sont les apôtres. Dieu leur fait confiance pour que son message soit transmis, que cet événement soit connu. Dieu choisit de faire garantir son action par des hommes pécheurs. Franchement, c'est solide, hein, de sa part. Enfin, faut oser. Sans les apôtres, on ne pourrait pas être sûr que Jésus de Nazareth est bien ressuscité. Sans eux, on ne saurait pas que le Fils de Dieu a demeuré parmi nous. Et c'est pour ça que les apôtres ont un rôle unique dans notre foi, qui fait que dimanche après dimanche, on dit qu'on croit en l'Église apostolique. L'Église apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur la foi des apôtres. Pourquoi elle est fondée sur la foi des apôtres? Pour cette raison-là. C'est les seuls qui peuvent nous dire que la résurrection, c'est bien celle de Jésus, en fait. Voilà, vous pouvez peut-être vous invite à y repenser dimanche prochain, quand vous réciterez, pourquoi dans l'Église, on appuie sur une sainte catholique apostolique, parce qu'en général, on se retrouve dans ce truc-là qu'on a bien mémorisé. Mais voilà, on peut, et en fait, ça a du sens derrière. Voilà, ça dit quelque chose de profond sur l'Église. Bien. Quelques éléments symboliques maintenant sur cette histoire de résurrection. Et je voudrais vous parler de création, de recréation, c'est des mots qui viennent souvent dans mes exposés. Mais, en fait, voilà, ce que je viens de vous raconter de façon peut-être très intellectuelle, se dit aussi d'une façon plus symbolique. Et des symboles qui ont frappé dès le départ des premiers chrétiens. Alors, ces symboles, on va essayer de les mettre ensemble. Pour le premier, on va commencer au commencement. Au commencement, la création est décrite comme une semaine au cours de laquelle tout est créé. Premier jour, deuxième jour, et bien le dernier jour, le jour du sabbat, où Dieu se repose, et où le peuple juif est appelé à faire de même. D'ailleurs, ça sera le texte de dimanche prochain. Vous voyez que le texte adulte est super bien fait. Je vous invite à bien écouter la première lecture, dimanche prochain. Dieu se repose, et parce que Dieu se repose, le peuple juif est appelé à faire de même. Donc ce sabbat, qui correspond à notre samedi, actuellement, est un jour fondamental, qui rythme chaque semaine pour le peuple juif. Alors, si vous m'avez suivi, si le sabbat, le sabbat c'est notre samedi, ça signifie qu'en fait notre dimanche, c'est le premier jour de la création. Voilà, c'est le premier jour de la semaine parce que c'est le premier jour de la création. Et donc, vous voyez peut-être là où je veux en venir, c'est que nous célébrons le jour de la résurrection le dimanche, le premier jour de la création. Et vous voyez donc que le symbole qui est derrière, c'est que la résurrection, c'est un jour de recréation. C'est le premier jour de la nouvelle création. Le dimanche, ce n'est pas une journée qui se répète semaine après semaine, mais c'est le jour qui, semaine après semaine, nous ouvre la possibilité d'une vie nouvelle, d'une vie sans cesse recréée, et qui chemine de recréation en recréation. Voilà pour le sabbat. Le deuxième élément symbolique tourne autour de la fête de Pâques, de la Pâque juive. C'est aussi un jour fondamental, évidemment, pour les Juifs, ça vous le savez, et c'est parce que c'est le jour où, avec beaucoup de solennité, tout le peuple fête sa libération d'Égypte. Et ça, quand même, c'est libéré, on sait que c'est précieux, quoi. C'est le moment du passage de l'esclavage à la liberté, de la soumission de Pharaon à l'appartenance à Dieu. Or, il se trouve que Jésus meurt la veille de Pâques. Il se trouve cette année-là, voilà, son Pâques est tombé le lendemain de son arrestation et de sa mort. Il est donc au tombeau le jour où le peuple fait mémoire de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer morte, de la mer rouge, merci, et il ressuscite le lendemain. Autrement dit, sa victoire sur la mort se fait le jour de la victoire sur l'esclavage. Donc en Jésus, Dieu nous libère non pas de l'esclavage humain, mais de la mort, qui est le fruit de l'esclavage qu'est notre péché. Vous voyez, c'est ça le contact qui s'opère. La résurrection, c'est donc une libération. Mais pas la libération de notre esprit qui enfin sortit de notre corps, ce truc qui le limite parce qu'il y a que deux bras, deux jambes, il peut être qu'à un endroit à la fois, je sais pas quoi. C'est la libération de tout notre être, corps et esprit, de quelque chose qui est un grand esclavage, qui est le mal. C'est tout notre être qui échappe à l'emprise du mal. Voilà pour le deuxième élément, le symbole de contact qui se fait. Et alors, à partir de là, on peut enfin faire un dernier pas. Parce qu'il se trouve que l'année où Jésus meurt, la fête de Pâques tombe un jour de sabbat. Ce n'est pas garanti par le calendrier. Il se trouve que là, c'est le même jour. Et donc, du coup, les deux symboles que j'ai évoqués, tac, fusionnent. Le jour de la recréation, c'est le même que celui de la libération, cette année-là. Et donc, vous voyez que la façon que Dieu a de nous libérer, de nous sauver, c'est comme je disais, c'est de recréer, de nous recréer. Dieu, autrement dit, ne libère jamais en arrachant, en découpant la tronçonneuse, en séparant, en détruisant. Il fait jaillir la vie là où elle n'existait pas, là où elle n'existait plus. C'est ça, la recréation. C'est pourquoi la résurrection n'est pas une réincarnation. En effet, Dieu nous a créé corps et âme, un, unique, uni. Et dans le plan de Dieu, hors des blessures et du péché, notre corps va avec notre âme et notre âme avec notre corps. Aussi, lorsqu'on meurt, en fait, notre âme se trouve arrachée, comme arrachée à notre corps, et ne pas se trouver attachée à notre corps. Elle est faite pour le corps qu'elle avait. Autrement dit, pour reprendre une autre image, c'est que l'âme n'est pas une espèce de fluide qui viendrait remplir la carafe qui est notre corps, vous voyez, et qu'on pourrait reverser dans un autre contenant après. C'est pas comme ça que ça marche. Corps et âme, c'est comme les deux faces d'une pièce. Et si vous essayez de découper une pièce sur la tranche, vous n'aurez pas à la recoller avec une autre, en fait. Voilà. L'image vaut ce qu'elle vaut. Mais corps et âme, nous sommes un. Et Dieu ne nous fait pas violence. Il ne va pas faire violence à notre âme, puisqu'il va la réadapter à autre chose, à un autre corps. Ça a des répercussions très concrètes pour nous, encore, actuellement, qui sont que, en fait, dans les sacrements, on vit ça. Dans les sacrements, il y a toujours une dimension matérielle et spirituelle, parce que nous sommes corps et âme. Dieu nous rejoint dans le tout que nous formons, corps et âme, et on le voit dans, typiquement, l'Eucharistie, c'est en général le sacrement qu'on maîtrise le mieux, et bien, il y a le pain, et il y a les paroles du prêtre sur le pain, il y a ce pain matériel, et il y a le corps du Christ qui est porté par ces espèces, on dit, techniquement parlant, qui est là. Et donc ça arrive au dernier point que je voulais soulever ici. La vie éternelle, du coup, vous voyez, puisque déjà dans les sacrements et cette dimension spirituelle, c'est une vie qui commence maintenant, en fait. Par le baptême, nous entrons réellement dans la vie éternelle. C'est une vie qui commence dès ici-bas. Autrement dit, si la résurrection, dans la plénitude de son sens, je vous l'accorde, c'est pour la fin des temps, c'est pour après notre mort, eh bien, il nous en est quand même déjà donné un avant-goût. Un avant-goût chaque fois que nous recevons les sacrements. Je voudrais vous donner cette petite citation de Paul Claudel qui dit « Notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé. » Oui, dimanche après dimanche, en fait, nous avançons de recréation en recréation parce que la vie éternelle nous travaille déjà. Et elle nous remplit déjà de plus en plus si on veut bien l'accueillir. Pour terminer cet exposé, dernier point, eh bien, il faut évoquer ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement personnel et le jugement dernier. On en a fait des caisses au 19e siècle, du coup au 20e siècle on en a dit on n'en veut plus, mais ça fait quand même partie de notre foi et je pense que c'est des éléments éclairants et importants pour nous. Ce jugement dernier a longtemps été présenté comme un tribunal autorisant ou refusant l'accès au paradis. C'est ça d'ailleurs l'image que vous en avez, hein. Avec l'archange Michel, balance, ça penche d'un côté ou pas, enfin voilà, tout ça. Mais je crois que ce qu'on a dit sur la recréation montre que l'objectif de Dieu n'est pas de vérifier si on a respecté le code civil quand on arrive là-bas, vous voyez. L'objectif de Dieu, c'est que nous atteignions la plénitude de notre être, un épanouissement plein, entier, et le jugement personnel, notre jugement à nous, ce sera la validation de cette plénitude que Dieu seul peut nous donner. Dit autrement, si nous nous sommes fermés à la vie de Dieu sur terre, nous n'aurons pas pu nous laisser recréer, nous n'aurons pas pu commencer à laisser cette vie entrer en nous, et nous ne serons pas entrés dans cette vie éternelle. Ce dont le jugement prendra acte. Voilà, je constate que tu as fermé la porte. Je ne vais pas péter la porte pour rentrer, quoi. Vous voyez ? Nous resterons à ce moment-là pour toujours fermés à l'action de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Au contraire, si sur Terre, notre vie a déjà commencé à s'ouvrir à l'action de Dieu, eh bien, après notre mort, nous resterons pour toujours ouverts à cette action, à ce lien qui nous transforme et produit en nous la plénitude de ce que nous sommes, nous rend plein, en fait, dense, entier. C'est ce qu'on appelle la sainteté, qui se réalise par le purgatoire ou par l'accès, disons, immédiat au paradis. Il me reste une seconde et une petite phrase pour évoquer ce qu'on appelle le jugement dernier, parce que je viens compléter ce jugement dit personnel. Ce jugement que je viens de vous présenter, ce jugement personnel, a un aspect très personnel, par définition. Ça me concerne moi, dans ma petite personne. Mais en fait, nos actions, elles ont aussi un impact sur les personnes autour de nous. On en fait malheureusement ou heureusement l'expérience. Et c'est pourquoi pour que notre jugement soit définitif, et juste, il faut attendre la fin des temps pour pouvoir voir les répercussions de toutes nos actions. Jusqu'où elles vont porter du fruit, jusqu'où, au contraire, elles peuvent provoquer de la destruction. C'est pour cela qu'après notre mort, il y aura comme deux niveaux de jugement. Un niveau personnel et un niveau plus global. Mais c'est bon, enfin, moi ça me laisse toujours à penser de me dire, en fait, le mal qui a été fait, je peux, moi, quand ici matin, choisir de l'arrêter ou de laisser se propager cette onde de mal que d'autres ont provoqué avant moi. Mais si je l'arrête là, je contribue aussi au salut de ceux qui étaient avant moi. Et je trouve ça enthousiasmant. Voilà, je vous partage cette petite chose. Bref, je vous laisse avec tout cela. C'est une méditation spirituelle et même pas mal métaphysique. Et puis, je vais vous remettre entre les mains de la vie plus terre à terre pour un autre éclairage sur la résurrection. Thank you.